Luc, chapitre 8. Nous allons lire les versets 22 à 39. C'est un texte assez long. Un récit très détaillé. Et nous allons commencer simplement par lire ce texte. Luc chapitre 8, à partir du verset 22. Or, un jour, c'est Jésus, il monta en barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils gagnèrent le large. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac. La barque se remplissait et ils se trouvaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». Il se réveilla, menaça le vent et les vagues. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de crainte, ils s'émerveillèrent et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour qu'il commande même au vent et au flot et qu'il lui obéisse ?» Ils abordèrent au pays des Gergéséniens. Heureusement, je n'habite pas cette ville. Qui est en face de la Galilée. Quand il descendait à terre, vint à son rencontre un homme de la ville qui avait des démons. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. À la vue de Jésus, il se jeta à ses pieds en poussant des cris et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Entrez, entrez. Bonjour. Est-ce qu'il y a assez de place ? Assez de chaises, c'est bon ? Oui, vous êtes condamné à être devant. Je suis désolé. Donc, depuis longtemps, on est en Luc chapitre 8, verset 27. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. À la vue de Jésus, il se jeta à ses pieds en poussant des cris et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme. Car bien des fois, il s'était emparé de lui, on le liait pour le garder avec des chaînes et des entraves. Mais il brisait ses liens, était poussé par le démon vers les lieux déserts. Jésus l'interrogea, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. » Et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de l'homme, ils entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et s'y noya. À la vue de ce qui est arrivé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Les gens s'en vinrent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis, qui était vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu le rapportèrent comment celui qui était démoniaque avait été sauvé. Alors, toute la population de la région des Gergéséniens demande à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient en proie à une grande crainte. Et lui monta en barque et s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le sollicitait. Il demandait à être avec Jésus. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et l'homme s'en alla, proclamant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Mais c'est un texte long. Et nous allons essayer, on ne va pas faire toutes les exégèses, encore moins épuiser tout ce qui est retiré de ce texte. Mais j'aimerais faire avec vous ce texte et vous montrer comment Jésus, ici, fait un signe qui nous renvoie au dessein de Dieu, qui nous renvoie à une vérité au sujet de sa mission de Messie, son programme messianique. Et ça, je vais essayer de faire aussi rapidement que possible. Mais pour moi, ce signe est très éloquent, ça nous donne un exemple de la lecture typologique d'un texte de l'Évangile. Bon, est-ce que quelqu'un peut distribuer ça? Je ne sais pas s'il y en a assez pour tout le monde, il faut peut-être partager. Ah, est-ce que je peux pas? Alors, nous nous trouvons à Capharnaüm. C'est là que Jésus avait une maison, au bord du lac. Et un jour, Jésus va prendre une initiative. C'est Jésus qui est le metteur en scène de ce signe. C'est Jésus qui a initié cette action. Parce qu'il veut donner un enseignement à ses apôtres au sujet du dessein de Dieu. C'est une action symbolique que nous allons voir ici. Bon, c'est une action historiquement réelle, mais Jésus veut lui donner un sens typologique pour que ses apôtres comprennent quelque chose. Donc il prend l'initiative de cette expédition en terre païenne. Bon, si vous avez votre feuille, vous voyez Capharnaüm à gauche. Jésus monte en barque avec ses disciples pour traverser le lac et entrer dans un territoire non-juif. C'est rare. Est-ce que quelqu'un sait combien de fois Jésus a une interaction avec les non-juifs dans les évangiles?
Comme ça.
Comment?
Les Samaritains y compris. Ouais.
Combien de temps? Combien?
Samaritains y compris.
Oui.
La Samaritaine.
Qui a dit?
Cinq fois,
exactement. C'est pas beaucoup. Parce que le ministère public de Jésus s'adresse au peuple, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc c'est pas souvent que Jésus parle aux non-juifs. Et c'est intéressant, quand il le fait, c'est souvent par opposition au peuple juif. Bon, maintenant, Jésus va prendre cette initiative de partir en terre païenne. Il est en train d'orchestrer ce signe, comme il le fait tout au long des évangiles. Hein? Il a un béret français, son porte-voix, caméra action. C'est lui qui mène le jeu. Alors, chose étrange, il y a des choses étranges au sujet de cette histoire, et d'habitude il y a un sens quand il y a des choses étranges. Jésus s'endort pendant la traversée de l'abîme. avant d'arriver chez les païens. La mission envers les païens, les non-juifs, doivent attendre la mort de Jésus pour se réaliser. Le ministère public de Jésus s'adresse aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit à ses apôtres, il ne faut pas aller chez les non-juifs. Il faut rester en Israël pour annoncer que le règne du Messie est proche. Bien sûr, Jésus vient pour tout le monde. C'est prévu dans le dessein de Dieu. Okay? Mais pas pendant son ministère public. Il n'y a que 5 occasions où Jésus soulève un peu le voile, le voile pour montrer ce qu'il veut faire avec les non-juifs. Donc la mission envers les non-juifs s'accomplira, s'engagera après sa mort. Il faut que Jésus traverse l'abîme. Hein, pour les juifs, l'abîme, c'est la mer, c'est l'eau, qui représente, qui est proche cousin du Sheol, de la mort. Une tempête s'abat sur les disciples. Chose étrange, Jésus continue à dormir. Le bateau se remplit d'eau, les apôtres paniquent, et Jésus, il dort. Ça, c'est un peu étrange. Et dans la réalité, à la fin de la vie de Jésus, quand Jésus meurt, quand il se trouve dans le tombeau, en train de dormir, les apôtres vont paniquer. N'est-ce pas? Ils vont se cacher. Ils vont être au désespoir parce qu'ils auront perdu la foi en Jésus comme le Messie. Et ils risquent de périr. C'est-à-dire, ils risquent de perdre définitivement leur foi en Jésus comme le Messie. Jésus dit, cette nuit, vous allez tous chuter à cause de moi. Mais j'ai prié pour vous. Pour que cette perte, parce qu'ils ont perdu leur foi, ils vont en venir à croire que Jésus n'est pas le Messie comme ils l'avaient cru. Les deux disciples d'Emmaüs diront, nous avions cru que c'était lui qui délivrera Israël. On n'y croit plus, parce qu'il est mort. Donc ils vont perdre leur foi en Jésus comme le Messie, mais Jésus ne veut pas que cette perte soit définitive. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul appelle le scandale de la croix. Alors quatrièmement, si vous êtes en train de suivre avec ce schéma, Jésus se réveille. C'est le même mot en grec qui est utilisé pour désigner la résurrection. Jésus ressuscite, en quelque sorte. Il annule la tempête qui menace de détruire définitivement la foi de ses apôtres que Jésus appelle, on a vu ça hier, les oligopistoi, les pygmées de la foi. Ils ne sont pas très forts pour la foi. Ils arrivent à croire que Jésus est le Messie, mais ils n'arrivent pas à avaler son programme messianique, le vrai dessein de Dieu, sa vraie mission. Bon. Ça, c'est la première partie. Nous sommes en présence ici, ça existe plusieurs fois dans les évangiles, on le trouve, ce qu'on peut appeler un diptyque. Je ne sais pas si vous avez déjà visité les musées d'art, et parfois vous voyez un tableau pliant, parfois en 3 sections, parfois en 2 sections. Un diptyque, c'est un tableau de 2 scènes qui se replient. Parce qu'il y a 2 signes, en fait, qui en font un. Parce que l'équipée de Jésus n'est pas terminée. Ça arrive en route. Bon, Jésus, le ressuscité, hein, il est maintenant réveillé. Il arrive en territoire païen. Et comme par hasard, il rencontre un démoniaque. Pas n'importe lequel, hein. Un célèbre. Et sans doute connu dans toute la région, sa condition évoque la situation spirituelle des non-juifs. Et tout est fait dans la description qu'en fait Luc, tout est fait pour nous rappeler les païens. Si vous voulez voir quelle est l'image que le juif moyen de cette époque a des païens, bah, lisez ça. Ok, on va voir. Regardez avec moi, c'est en haut à droite. Il est depuis longtemps sous l'emprise des puissances, de puissances démoniaques nombreuses. L'apôtre Paul dit, derrière le politisme romain, il y a des démons. C'est eux qui sont derrière. Combien de faux dieux, de dieux païens, il y a-t-il dans l'Empire romain? Des centaines, sinon des milliers. Chaque ville avait ses dieux, chaque peuple, chaque ethnie avait toute une flopée de divinités. Deuxièmement, les démons s'appellent légions. Bon, à cette époque, on ne disait pas légions pour signifier beaucoup. Nous le disons à cause de ce texte. D'accord? Les gens évoquaient quoi? C'est un terme technique, c'est un terme militaire romain. Ça désignait une unité de l'armée romaine composée d'à peu près 6000 hommes. Hein, les légions romaines. La puissance militaire des païens. Il vit non pas dans la maison de Dieu, il vit dans la cité des morts. Il vit parmi les tombeaux. Jésus va dire aux païens, l'apôtre Paul, vous étiez morts, étrangers, aux promesses d'Israël. Et ces démons le poussent dans le désert. Il est nu, qui évoque l'immoralité sexuelle qui sévisse parmi les non-juifs. Écoutez, pour les juifs, les païens étaient des obsédés sexuels. Ah oui, oui. Les juifs méprisaient les non-juifs pour un tas de raisons. Mais une des raisons, bah, parfois de bonnes raisons, mais une des raisons, c'était qu'ils méprisaient les mœurs sexuelles des non-juifs. Il est doté d'une puissance colossale, impossible à maîtriser par les hommes, par les moyens humains. Alors, là, un juif aurait tout de suite compris. Depuis au moins l'époque de Babylone, Israël est dominé sans pitié par les puissances militaires, politiques, païennes. Les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains. Impossible au peuple de Dieu de maîtriser cette force. Donc cet homme, c'est comme beaucoup de personnages dans les évangiles, représente un groupe de personnes. Représente le peuple païen. Ben ça c'est évident parce que Jésus y va exprès. Alors, Jésus chasse les démons avant le temps. C'est les autres évangiles qui nous donnent ce détail. Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Et ce n'est pas encore le moment de s'attaquer aux non-juifs. Mais Jésus chasse ce démon et il leur permet d'entrer dans des animaux impurs, c'est des cochons qui étaient gardés par les gens du coin. Alors, l'ancien démoniaque, les gens, bon, il y a cette histoire, ils vont dire aux gens des alentours, ils reviennent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cet homme qui avait été possédé, doté d'une force colossale. Maintenant, il est vêtu. Il est dans son bon sens. Il est assis au pied de Jésus. Ça, c'est la position d'un disciple. D'accord? Il est prêt à écouter la parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est intéressant, Jésus refuse la demande de cet homme pour l'accompagner, pour être avec lui. Pourquoi ce n'est pas le moment d'incorporer les non-juifs dans cette communauté messianique qui se forme de vrais juifs. aux Juifs d'abord et puis aux Pâques, comme dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas encore le moment. Pas que Jésus refuse des disciples. Hein. Il ne rejette pas cet homme. Mais il dit, ce n'est pas encore le moment de faire ça. J'étais envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Le moment, l'heure des non-juifs viendra. Mais là, il faut attendre la mort de Jésus. Vous savez, en Jean chapitre 12, il y a des Grecs qui viennent dire à André, qui est un nom grec, nous voudrions voir Jésus. Ben, ils veulent voir Jésus avec les yeux, ils veulent se laisser enseigner. Qu'est-ce que Jésus leur dit à ces Grecs? Rien du tout. Ils ne donnent pas suite à cette demande. Pas encore le moment. C'était proche, hein? Jésus allait mourir. Peu de temps après ça. Et neuvièmement, ça c'est une chose qui doit nous étonner si nous lisons les évangiles. Presque après chaque miracle, Jésus dit aux miraculés et aux témoins, il ne faut pas raconter ce miracle. Pour vous taire. Et les biblistes appellent ça le secret messianique. Hein, c'est le fait que Jésus, il ne se promène pas à dire à tout le monde en Israël, « Hey les gars, je suis le Messie. » Il évite ce titre comme la peste. Et bien, il y a des raisons pratiques pour ça, mais une raison théologique surtout. Connaître le Messie, qui n'est pas le Messie mort, ressuscité et monté au ciel, c'est connaître un faux Messie. Parce que le vrai Messie est le Messie mort pour les péchés, ressuscité d'entre les morts et monté au ciel. Ça, c'est le vrai Messie. On ne peut pas connaître Jésus avant ça. Pas vraiment. Et donc, il n'a pas... C'est le contraire de la consigne que Jésus donne à la plupart des miraculés. Hein, il ne faut pas raconter ce que vous avez. Là, il dit, allez-y. Allez-y. Les mêmes précautions que Jésus doit prendre avec le peuple d'Israël, ne sont pas applicables au peuple non-juif. Une chose que Jésus voulait prévenir, c'est de créer un mouvement nationaliste où on essaierait de le faire voir. Ça, c'est une des raisons. Bon, voilà un peu. Comme je dis, ça n'épuise pas du tout le texte. Il y a beaucoup de choses à retirer. Mais mon propos... dans ces études, simplement d'enrichir votre lecture en vous montrant cet aspect typologique des événements des évangiles. Bon, on va passer, je croyais avoir 2 heures, hein, c'est simplement 45 minutes de fois, donc je vais essayer d'aller vite. Bon, on va regarder un deuxième signe. Et vraiment, c'est le signe des signes que nous avons regardé. À mon avis, c'est le signe le plus extraordinaire dans les évangiles. C'est le seul signe, c'est le seul miracle de Jésus rapporté dans les 4 évangiles. Donc il est important. Et de loin, le meilleur récit, le récit le plus complet de ce signe est celui de Jean. En fait, Jean va faire suivre ce signe par un long discours que Jésus prononce dans la synagogue de Capharnaüm et qui est extraordinaire par la révélation que Jésus y fait. Extraordinaire. Et on va voir, c'est la même chose pour ce signe. Ce signe va nous montrer presque la totalité de l'itinéraire messianique, le programme messianique de Dieu. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Alors, on n'a pas le temps même de voir tous les aspects, même tous les aspects typologiques, parce que le temps nous est compté. J'ai divisé ce signe en 5 scènes. Le décor est planté, versets 1 à 4, le signe est préparé. Versets 5 à 10, le signe est accompli, versets 11 à 13, le signe est méconnu, versets 14 à 15, et le signe est complété. C'est notre diptyque. Il y a deux signes, mais ils n'en font qu'un seul. C'est la multiplication des pains, et puis Jésus qui marche sur les eaux. Alors, le décor est planté. Je suis désolé, je suis obligé d'aller vite. Donc, je vais peut-être sauter des choses. C'est pourquoi je vous donne cette feuille. Vous pouvez lire des choses qu'on n'aura pas le temps de regarder. Mais lisons cela. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée vers la région de Tibériade. Où est passé mon... Non, l'autre, c'est le premier. Si vous voyez, Capernaum est ici, Tibériade est là. Quand Jésus traverse le lac, il traverse cette partie. Hein. Il ne traverse pas dans les pays païens. Ça, c'est un petit détail, mais qui nous aidera à mettre les choses en place. Une foule nombreuse le suivait parce qu'on avait vu les signes qui faisait sur les infirmes. Ah, un guérisseur, on va le suivre. Attention, il ne faut pas prendre cet enthousiasme pour la foi. À la fin du chapitre 2 de Jean, Jean dit au sujet des Juifs de Jérusalem que certains commencent à croire en Jésus, un prophète, peut-être le Messie, mais Jésus ne croit pas en eux. C'est-à-dire, ils voient l'insuffisance de leur foi. Ils veulent un Messie à leur image, non pas à l'image de Jésus. Donc, ils ne comprennent rien aux signes. Ils voient le pouvoir derrière les signes, mais ils ne comprennent pas la signification des signes. Alors, bon, on abrège. Jésus gravit la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Voilà le décor. Jésus traverse la mer. Ah bon? C'est une mer, ça? Ah, c'est une mer. C'est quoi?
Un lac.
Un lac. Partout dans les évangiles, partout ailleurs, on l'appelle un lac. Ici, on l'appelle une mer. Jésus traverse la mer et il gravit une montagne comme Moïse. Il y a ici un nouveau Moïse. Un Moïse définitif, non pas pour donner une loi, une nouvelle loi, mais pour révéler les intentions de Dieu sur les âmes. Et c'est la Pâque. Ce n'est pas simplement pour qu'on puisse situer chronologiquement cet événement. C'est une indication théologique. Vous savez, à la Pâque, le père de famille, il prend le pain, il rompt et il distribue aux convives. Jésus va le faire ici, comme il le fera lors de l'institution du repas du Seigneur. Tout cela doit nous faire penser à la Pâque, parce que le pain que Jésus va donner, c'est lui-même et son corps. Le signe est préparé. Levant alors les yeux et voyant qu'une nombreuse foule vient à lui, Jésus dit à Philippe, le pauvre, et peut-être à côté, d'où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens? Jésus lève les yeux au chapitre 4. Jésus a demandé à ses disciples de faire quoi? De lever les yeux et voir la moisson, voir les Samaritains qui viennent. Ici, c'est Jésus qui lève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit? il voit la foule des âmes affamées qui viennent vers lui. Il dira plus tard, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les âmes à moi. Alors, sans raison apparente, il exprime le souci de procurer du pain pour cette foule. Et on va comprendre, le pain c'est lui, c'est le don de sa personne. Comment trouver de quoi nourrir tout ce monde? Vous vous souvenez de Moïse, qui est dans le désert, et les Israélites en avaient marre de manger la manne. Et il disait, on veut de la viande. Et Moïse se plaint à Dieu. Il dit, ben, ça, je crois que ces textes sont sur la feuille. Où trouverai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple qui me poursuit de ses pleurs et me dit, donne-nous de la viande à manger. Ben, ici, la question n'est pas posée à Dieu, c'est posée à Philippe. Philippe. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Pourquoi il veut mettre le... Quel est l'examen que Philippe doit passer ici? C'est quoi? Jésus le teste pour voir s'il connaît les boulangers du coin, de bonnes adresses, de bons restaurants, du tout. Jésus veut donner à Philippe l'occasion de découvrir qui il est vraiment. Philippe va passer à côté, 0 sur 10, il ne va pas réussir, il va laisser passer cette occasion. Mais cette question de Jésus, d'où viendra le pain? C'est une question primordiale dans l'évangile de Jean. Personne ne sait d'où venait le vin à Cana, n'est-ce pas? Sauf les serviteurs. La femme samaritaine dit, Jésus dit, celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et la femme dit, mais où est-ce que je peux puiser cette eau? La question. Les Juifs sont toujours en train de poser la question, d'où vient Jésus? Ah, on sait, il vient de Nazareth. Aucun prophète ne vient de Nazareth. Faux. Quelle est la bonne réponse?
De Dieu?
Oui, c'est pas Bethléem. La maison de Jésus, son lieu d'origine, c'est ici. D'où? Et chez Jean, cette question d'où, d'origine, détermine l'identité. Il va dire aux Juifs, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Traduction, votre pensée humaine, ce que j'enseigne vient de Dieu. Mon enseignement, ma parole est divine. Du pain, du vin, de l'eau, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'offre chaque fois. Alors, Philippe, non, passez à côté. À la fin de l'évangile, Jésus va dire ceci à Philippe. Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu n'es pas parvenu à me connaître, Philippe. Jésus est dans la chambre haute avec 11 disciples qui l'aiment bien, mais qui sont incroyables. Ils ont le bon candidat, Jésus, ils vont voter pour Jésus. Mauvais Messie. Mauvais Messie. Et ça, c'est la source de leur incrédulité. Jésus les traite comme des incrédules. Lisez dans cette perspective tout le discours de la chambre haute. Jésus dit à ses apôtres exactement, mot pour mot, ce qu'il dit aux Juifs qui veulent le tuer. Aux Juifs incrédules. Ils arrivent à la fin de l'évangile, ils n'ont pas encore accepté le programme messianique de Dieu. Ils sont pour Jésus, les incroyants. Ils sont convertis après, au sens plein. Bon, Philippe, panique. Mais Jésus, verset 6, il savait, lui, ce qu'il allait faire. Non seulement qu'il savait qu'il allait multiplier les pains, il savait qu'il allait donner sa vie, sa chair, pour la vie du monde. C'est ça qu'il savait. Jésus sait. Dans l'évangile de Jean, il est celui qui sait. Il sait d'où il vient, il sait où il va, il sait le plan de Dieu. Il sait la vraie mission du Messie. Il sait. Les autres ne savent pas. Alors Philippe lui répondit, puisque me dit que j'ai 10 minutes pour m'arrêter et puis on reprendra. Il faut faire ça en 2 étapes. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. 8 mois de salaire. Donc vous prenez votre salaire. 8 mois pour que chacun ait un petit goût. Philippe rate l'occasion. Commence à penser comme un ordinateur, hein, comme une caisse enregistreuse. Il ne voit que le côté matériel. Alors que Jésus l'invite à voir une signification dans ce qu'il va faire. Philippe rate l'occasion. Il n'est pas le seul. André rate, tous les apôtres vont rater. Bon, il y a des textes dans l'Ancien Testament qui parlent si vous n'avez pas d'argent, venez vous procurer de quoi manger, c'est gratuit. Alors, un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre? Ça ne suffit pas pour un ado, sans parler de 5000 enfants. Alors, le détail, moi je saute beaucoup de choses, mais le détail, c'est qu'il s'agit de pain d'orge. Et cela nous renvoie à une multiplication des pains de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas le premier à multiplier miraculeusement des pains pour nourrir des gens affamés. Élisée l'a fait. C'était pendant une famine. Bon. Lisez avec moi. Un homme vint de Baal Shalisha et apporta à l'homme de Dieu, c'est le prophète, du pain de prémices, 20 pains d'orge et de blé nouveau dans un sac. Élisée dit, distribuez-les aux gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en distribuer à 100 personnes? Il n'y a pas assez. Bon, la proportion est nettement moindre que chez Jésus. Il dit, distribuez-les aux gens et qu'ils mangent. Ainsi par le Seigneur, on mangera, il y aura des restes. Le serviteur fit la distribution en présence des gens. Ils mangèrent et il y eut des restes selon la parole du Seigneur. Ce qui va se passer ici dans les collines de la Galilée, c'est une extension de ce miracle. Mais en plus grandiose. Il n'y a pas seulement ici un nouveau Moïse, un Moïse définitif. Il y a un nouvel Élisée aussi. Jésus réalise et dépasse tous les prophètes. Alors, le signe est accompli. Moi, il faut me dire, hein, parce que je vais jusqu'à la fin. Ok. Jésus dit, faites-les s'étendre de ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Les hommes s'étendirent alors au nombre d'environ 5000. Jean va appeler ces gens des convives dans le verset suivant. Ce n'est pas une distribution de nourriture. C'est un repas. C'est une communauté de table. Jésus préside à un repas. On s'étend dans l'Antiquité pour manger. Nous, on apporte nos petits, nos chaises pliantes, on s'assoit. Mais eux, ils s'étendent pour manger. D'accord? Combien de fois dans les évangiles est-ce que Jésus compare le règne messianique à un festin? Surtout un festin de noces. On appelle ça, les commentateurs appellent ça le festin messianique. Jésus va réaliser matériellement une préfiguration de ce festin messianique. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, pareillement aussi pour les petits poissons, autant qu'ils en voulaient. Ils sont rassasiés. Chacun mange autant qu'il veut. Ça vous rappelle quelque chose? La manne. Les Juifs pouvaient prendre autant qu'ils pouvaient en manger. Le psaume 78, pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne, il leur donna le blé des cieux. Chacun mangea le pain des forts. Il leur envoya des vivres à satiété. Alors, quand il fut repu, verset 12, il dit à ses disciples, « Rassemblez le surplus des morceaux afin qu'aucun ne soit perdu. » C'est bien, Jésus est écolo. Il n'aime pas le gaspillage. Non, c'est pas ça ici. Bon, ça rappelle le miracle d'Élisée. Il y a eu des restes selon la parole du Seigneur. Attention, moi quand j'étais petit, que j'entendais cette histoire, j'imaginais des croûtes de pain, des marques des dents là-dedans. C'est pas ça. C'est pas des miettes. C'est pas ce qui reste. C'est 12, c'est des portions entières qui n'ont pas été employées. D'accord? Alors, la phrase importante ici, Jésus dit pour ne pas perdre ce pain. C'est un pain qui ne doit pas se perdre. Oh. Clignotant. Donc, sur notre tableau de bord. Jésus va dire un peu plus loin, œuvrez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Qui demeure, qui ne se perd pas. Celle que vous donnera le Fils de l'homme. Jésus ne fait pas ce miracle pour rassasier la faim physique de ces gens. Des âmes. Il a fait ça pour signifier la vraie nourriture. Comme Jésus ne guérissait pas les gens pour vider le monde des gens malades. Faisait ça pour signifier sa vraie mission. Ce surplus est soustrait à la perte. Et il symbolise ce pain, cette autre nourriture que Jésus va donner et qui va aboutir à la vie éternelle. Ceux qui mangent ce pain-là n'auront plus jamais faim. Mais il y a aussi autre chose ici. C'est un contraste avec la manne. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire. Les Juifs pouvaient en prendre autant qu'ils voulaient. Mais tout ce qu'ils prenaient et ne mangeaient pas, qu'est-ce qu'il y en a?
Pourrissait.
Ça se perdait. Tout l'excès, tout l'excédent de la manne se perdait. Pas le pain de Jésus. Le pain de Jésus. Et Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Est-ce qu'ils sont morts? Ah ouais, ils sont tous morts. Le pain que je vous donne, celui qui en mange, ne mourra pas. Alors, ils rassemblèrent donc et remplirent 12 paniers, 12 couffins, avec les morceaux provenant des 5 pains d'orge qui étaient restés de ce qu'ils avaient mangé. 12, comme les 12 fils d'Israël, comme les 12 tribus, comme les 12 apôtres, c'est le chiffre de la totalité du peuple de Dieu. Ce pain est assez abondant, non seulement pour nourrir les 5000, mais pour tout le peuple de Dieu, de tous les temps, toutes les générations. Tout le peuple, peuple de Dieu dans sa totalité, sera nourri de ce pain. C'est intéressant, les trois autres récits évangéliques, Matthieu, Marc et Luc, C'est ça le détail le plus important. Hein? Il ne donne pas le sens symbolique aussi bien que Jean. Mais là, il donne. Ça, c'est la fin de ce récit dans les autres évangiles. 12. Ça veut dire Jésus nourrit tout le peuple de Dieu par le don de sa chair, le don de sa vie pour toutes les générations à venir. Pas simplement les 5000. Alors, je crois que c'est... Je m'arrête. On va reprendre ça après.
Merci Max. Alors, on a 10 minutes de pause. Et après, on va voir le culte et on va...